Merci d'avoir choisi Europe 1.
Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Avoir froid, si possible, avec une lumière tamisée et avec un col roulé, ce sera un acte citoyen cet hiver. Le gouvernement dévoile demain son plan de sobriété européen. Vous en dévoile les grandes lignes dès ce soir. Rien de contraignant, vous allez l'entendre dans le journal. Nous en parlerons plus en détail avec nos commentateurs. Ce soir, l'ancienne secrétaire d'État Jeannette Bougrabe, la politologue Anne-Charlène Bézina et l'essayiste et dirigeant d'entreprise Alexis Karklins Marchais. Mais avant l'information, le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous.
Et nous revenons donc en détail sur ce plan de sobriété énergétique, objectif diminuer notre consommation de 10% par rapport à 2019.
L'État devra être exemplaire, les entreprises et nous les particuliers seront également mis à contribution. Dur de faire le plein des problèmes d'approvisionnement dans 12% des stations-service en France et notamment celle de Total Energy. Dans ce journal, l'évacuation d'un campement de fumeurs de crack à Paris, Gérald Darmanin est sur place ce soir, le foot Benfica Lisbonne PSG et puis le parcours du marathon olympique de Paris 2024, difficile et symbolique mais aussi ouvert au grand public.
Allez, la tendance météo. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Raphaël et bonsoir à tous. Alors du soleil majoritaire demain après-midi qui s'accompagnera d'une baisse des températures maximales. Oh, elles vont quand même rester au-dessus des moyennes saisonnières. Météo complète à la fin du journal.
À tout à l'heure Marlène. C'est demain après-midi que le gouvernement présente son plan de sobriété énergétique, mais dès ce soir, Europe 1 vous en dévoile les grandes lignes.
Il s'agit, rappelons-le, d'éviter à tout prix les coupures de gaz ou d'électricité cet hiver dans un contexte de crise internationale. Pas le choix, nous devrons donc tous faire un effort cet hiver. Et c'est l'État qui montrera l'exemple, Baptiste Morin.
Oui, l'État devra être exemplaire. C'est ce que nous pouvons lire dans un document de travail que nous avons consulté. Document qui peut encore évoluer, mais qui donne les grandes lignes de ce plan. Par exemple, les bureaux publics seront chauffés à 19 degrés maximum. Il n'y aura plus d'eau chaude dans ces bâtiments, hormis pour les douches. Des travaux énergétiques devront être menés dans les bâtiments publics, dans leurs déplacements professionnels. Les agents de l'État devront limiter la vitesse de leurs véhicules de fonction à 110 km/h sur l'autoroute. Leurs voyages en avion devront être remplacés par le train si une alternative de moins de 4 heures de trajet existe. Et puis enfin, ces agents de l'État seront incités à faire du télétravail. Voilà comment l'État compte réduire sa consommation de 10% cet hiver.
Alors voilà pour l'État et pour les entreprises et les établissements recevant du public. Que prévoit ce plan, Baptiste ?
Rien de contraignant pour les entreprises. Le gouvernement veut les inciter à suivre le modèle de l'État. Pour les établissements qui reçoivent du public, c'est plus précis. Les commerces sont par exemple invités à réduire leur éclairage. Les hôtels sont invités, eux, à baisser la température des piscines intérieures et extérieures d'un degré. Les domaines de ski vont s'adapter avec une vitesse adaptée des télésièges à la fréquentation et les stades de football ou de rugby devront être éclairés moins longtemps avant et après les rencontres.
Et puis pas d'obligation pour nous, les particuliers, mais plutôt des conseils.
Et un slogan, je baisse, j'éteins et je décale. Ce sera la campagne du gouvernement à partir de lundi. Décaler la période de chauffe, par exemple, a débuté au 1er novembre au lieu du 15 octobre et l'arrêter au 1er avril plutôt qu'au 15 du mois. Le gouvernement parle d'une baisse de 12% de la consommation. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou qui restent en veille, il pourrait être demandé aux acteurs du secteur de travailler sur un paramétrage des box internet et décodeurs télé pour qu'ils se mettent en veille en cas de non-utilisation. Et enfin, baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales, 17 degrés dans les chambres, ainsi que la température du chauffe-eau à 55 degrés. Autre mesure évoquée par le ministère de la Transition énergétique, inciter au covoiturage avec un bonus de 100 euros pour chaque nouvel inscrit sur une plateforme de covoiturage. Ce sera à partir du 1er janvier 2023.
On retient donc ce slogan, Baptiste, je baisse, j'éteins et je décale. Demain, 9 ministres vont présenter pendant 3 heures les détails de ce plan. Par ailleurs, dès la semaine prochaine, les collectivités locales en difficulté à cause des prix de l'énergie, mais aussi de l'alimentation, pourront demander un acompte sur l'aide de l'État prévue pour compenser l'augmentation de leurs dépenses.
Si vous devez faire le plein, attention, vous risquez d'être contraint à la sobriété ou à la marche à pied.
Eh oui, certaines stations-service sont en effet à sec. Pas de pénurie, précise bien le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, mais il reconnaît des tensions. Selon lui, 12% des stations françaises ont des difficultés, au moins pour un type de carburant, les Hauts-de-France étant les plus touchés, avec environ 30% des stations. Ces difficultés, elles sont particulièrement sensibles chez Total Energy, victime à la fois de la grève dans ses raffineries et de son bonus de 20 centimes à la pompe. Reportage dans une station prise d'assaut à Paris, Louise Douillet.
Vous avez fait beaucoup de stations avant de trouver celle-ci ?
8.
Pour pouvoir rentrer chez elle au volant de sa Clio rouge, Pauline n'a pas le choix. Elle doit faire le plein.
J'avais peur de ne pas pouvoir récupérer d'essence. Du coup, je me suis arrêtée. Je suis venue là à pied pour récupérer 3 litres avec des bidons. Et là, du coup, j'ai fait le reste de la route. J'arrive sur la réserve.
Dans la file des dizaines de voitures, des automobilistes qui klaxonnent, soufflent et des professionnels comme Mohamed qui s'impatientent au volant de leurs utilitaires.
Ça fait au moins 30 minutes, je suis bloqué, enfin, même pas 100 mètres, juste pour mettre le plein. C'est vraiment le bordel. Je travaille dans la fibre, je me déplace souvent chez les clients, etc. Donc sans carburant, je peux plus travailler.
Renaud a lui tellement tourné à moto dans Paris qu'il a atteint la réserve.
Et j'ai de la chance d'être en deux roues. J'ai pris tous les trottoirs pour me glisser dans la file. Je n'ai pas regardé le prix, je dois aller chercher ma fille, je suis déjà en retard.
La file de voitures s'allonge maintenant sur 2 km, sûr que tout le monde puisse avoir du carburant avant ce soir.
Reportage de Louise Douillet. Près de la moitié des stations Total Énergie en Île-de-France n'ont ce soir plus de carburant. Sur leur site internet, vous trouverez une carte interactive avec les stations approvisionnées ou pas.
Pour ceux qui préfèrent le train, la SNCF ouvrait la vente ce matin pour la période des fêtes de fin d'année.
Précisément pour la période du 9 décembre au 2 janvier. Et la ruée sur le site et l'application a commencé dès 6h, Barthélémy Philippe.
Et oui, dès l'aube, des milliers d'usagers se sont jetés sur les 9 millions de billets ouverts à la réservation afin de bénéficier des meilleurs prix. Les chiffres avancés par la SNCF donnent le tournis. Entre 6h et 8h du matin, il s'est vendu plus de 30 billets par seconde, de quoi remplir 3 TGV par minute. Pris d'assaut, les compteurs du site et de l'appli SNCF Connect ont rencontré une affluence record, jusqu'à 100 000 connexions par minute. C'est 10 fois plus que lors de l'ouverture des réservations à la même époque l'an dernier. Si certains voyageurs lèvent tôt se sont plaints de bugs, la SNCF assure de son côté que les ventes n'ont jamais été interrompues. La compagnie reconnaît toutefois des délais d'accès plus longs que d'habitude, jusqu'à 5 minutes pour certains clients. Ces derniers ont été invités à patienter dans ce que la SNCF appelle une salle d'attente virtuelle mise en place pour l'occasion.
La SNCF qui réfléchit à augmenter ses tarifs pour 2023 face à la hausse des prix de l'énergie. Une décision sera prise dans les prochaines semaines.
Cela faisait un an que le campement du square Forceval dans le nord-est de Paris était le rendez-vous des fumeurs de crack. Le camp a été évacué ce matin.
Oui, par un millier de policiers et de gendarmes. Gérald Darmanin est sur place ce soir. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur de donner des précisions sur cette expulsion.
Nous avons procédé ce matin à 211 contrôles. Plus d'une cinquantaine de personnes étrangères en situation irrégulière, une quarantaine de personnes qui étaient recherchées par la police pour diverses raisons, mais aussi des personnes très, très vulnérables, notamment on pense à des femmes seules, parfois exploitées, sous emprise. J'ai demandé aux milliers de policiers et gendarmes que j'ai mobilisés sur cette opération de rester jour et nuit dans ce 19e arrondissement et dans les villes d'Aubervilliers et de Pantin à proximité pour éradiquer ce village du crack qui doit se reconstituer ni à Paris ni dans les villes de sa banlieue, bien évidemment.
Gérald Darmanin au micro de Nina Droff qui a également rencontré des riverains entre soulagement et inquiétude sur l'avenir.
Bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Les riverains vont pouvoir souffler. Ils ont eu la peur du quotidien en traversant par cette porte de la Villette. Maintenant, ça va pouvoir être beaucoup plus sympathique, fluide.
On est soulagés. Les gens du 93 et les gens du 19e sont soulagés. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je pense qu'ils reviendront. Ça va se déplacer à un certain moment à Stalingrad et ils reviendront.
C'est évident qu'on a peur que ça se reforme. Là, on voit plein de toxicomanes errer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quelle prise en charge? Il n'y a rien de prévu pour ces gens-là. Puis lundi, les dealers étaient déjà au courant qu'il y aurait une opération aujourd'hui. Donc, ils ont pris leur disposition. Donc, les dealers sont toujours dans la nature.
Des habitants du secteur du square Forceval évacués ce matin. À Rennes, ce sont 121 migrants vivant dans des campements de fortune qui ont été évacués par la police. Les réquisitions au procès de la collision de Mias dans les Pyrénées-Orientales en 2017, 6 enfants avaient trouvé la mort. 5 ans de prison requis contre la conductrice du car scolaire, dont 4 avec sursis. Sa défense a plaidé la relaxe. Jugement le 18 novembre.
On marque une pause sur Europe 1 dans un instant. La mort d'une jeune passagère de 18 ans après le refus d'obtempérer d'un conducteur à Grenoble, un homme déjà condamné pour des tirs sur les forces de l'ordre. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, la suite du journal d'Hélène Zélani. Nouvelle affaire de refus d'obtempérer qui tourne au drame. La passagère de la voiture, une jeune fille de 18 ans, a été tuée.
Oui, ça s'est passé la nuit dernière à Grenoble. Les trois policiers sont entendus sous le régime de la garde à vue. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place. Le conducteur est lui aussi en garde à vue. Il a tiré à plusieurs reprises sur les forces de l'ordre.
Oui, la course-poursuite s'est engagée juste après le refus d'obtempérer du conducteur qui, très rapidement, a fait feu sur les policiers tout en conduisant. Les fonctionnaires ont d'abord gardé leur distance avant de bloquer la Renault Mégane du conducteur dans une impasse. Celui-ci a alors fait demi-tour et a foncé sur les policiers qui ont tiré à leur tour en direction du véhicule. L'homme a fini par être interpellé, mais la passagère, une jeune femme de 18 ans, a été retrouvée morte, une balle dans le cou, pas forcément tirée par les policiers d'ailleurs, estime Yannick Biancheri du syndicat Alliance Police Nationale.
C'est un peu facile de dire tir de policier, une personne décédée. Alors ça peut, mais il n'y a pas que cette hypothèse. Donc la personne, je vous rappelle, a tiré à plusieurs reprises. Et quand on voit que cet individu a fait déjà 8 ans de prison pour des tentatives d'homicide sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, donc sur des policiers, il recommence, donc très très peu fréquentable. C'est un voyou, on peut le dire. L'enquête déterminera à quel niveau il a été et qu'est-ce qu'il a fait et surtout prouvera sa tentative d'homicide vis-à-vis de mes collègues.
Un homme de 30 ans, marocain, originaire du Vaucluse, connu là-bas dans le milieu du trafic de stupéfiants. Il faisait d'ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datant de 2019, d'où probablement sa volonté de ne pas être contrôlé cette nuit dans les rues de Grenoble. D'autant qu'il était également recherché par les policiers de Bourgoin-Jallieu, toujours en Isère, pour s'être promené en début d'année dans les rues de la ville avec un revolver Magnum approvisionné et un fusil d'assaut.
Jean-Luc Boujon, vous êtes à Grenoble pour Europe 1. Cette scène marquante au Parlement européen, une eurodéputée suédoise d'origine irakienne s'est coupée les cheveux pour soutenir la lutte des femmes iraniennes. « Tant que l'Iran ne sera pas libre », a-t-elle dit, « notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs ». Ici en France, plusieurs artistes font ce même geste dans une vidéo. Juliette Binoche, Julie Gayet, Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg ou encore la chanteuse Angèle. Vous vous souvenez sans doute du tir mortel sur un tournage aux États-Unis. L'acteur Alec Baldwin avait tué la directrice de la photo en manipulant un revolver chargé. Un accord financier a été trouvé entre l'acteur et la famille. Le tournage doit reprendre en janvier.
Nouvelle soirée foot à vivre ce soir sur Europe 1, troisième journée de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain joue sur le terrain du Benfica Lisbonne.
Quelques 60 000 spectateurs seront dans les tribunes pour encourager leur équipe. Ambiance surchauffée, assurée, Cyril de la Morinerie.
Oui, exactement. Et nous y sommes dans cette magnifique enceinte Estadio Dalous, en français le stade de la lumière, avec beaucoup de rouge parce que ce sont les couleurs du Benfica, contrairement au Sporting, le grand rival qui lui arbore des couleurs vertes. Et effectivement, beaucoup de monde aperçu aux abords de cette enceinte parce qu'il y a une grande curiosité de voir ce Paris Saint-Germain là, et notamment Lionel Messi, il y a pas mal de fans et de Lisboètes qui sont venus aux abords également de l'hôtel du Paris Saint-Germain cet après-midi à Lisbonne pour tenter d'apercevoir les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est un grand match ce soir de football parce que vous avez le Benfica qui domine son championnat, Paris domine également son championnat. Il y a de très grands joueurs, de grands talents, notamment beaucoup de jeunes joueurs en devenir ici du côté du Benfica, et puis le Paris Saint-Germain avec ses trois stars qui a envie bien évidemment de continuer sa marche en Ligue des Champions et puis d'effacer ce souvenir amer. C'est ici que Paris avait perdu en finale de la Ligue des Champions, c'était en 2020 face au Bayern Munich.
Cyril de la Morinerie devant le stade du Benfica, coup d'envoi à 21h, et c'est bien sûr à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
Le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, demandez le programme.
Un parcours dévoilé cet après-midi qui sera ouvert aux amateurs, Axel May. Il s'annonce très difficile et plein de symboles.
Oui, un départ de l'hôtel de ville, direction Versailles et retour dans la capitale avec une arrivée sur l'esplanade des Invalides en passant par des lieux emblématiques comme la Tour Eiffel. 7 autres villes seront traversées, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Viroflay, Chaville, Meudon et ici les Moulineaux. Un parcours difficile avec deux belles montées et un parcours qui rend hommage aux femmes révolutionnaires, explique Jean-Philippe Gatien, directeur des sports de Paris 2024.
On retrace cette marche des femmes le 5 octobre 1789 qui sont parties de l'hôtel de ville, qui sont allées chercher le roi à Versailles pour le ramener à Paris, pour réclamer du droit et des réformes et du pain, et qui a permis au roi Louis XVI de ratifier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc un parcours inspirant avec un vrai enjeu de société de renforcer la place des femmes qui nous tient particulièrement à cœur.
Symboliquement, les épreuves masculines et féminines du marathon vont pour la première fois de l'histoire des JO permuter pour que ce soit les femmes qui clôturent les Jeux le dimanche 11 août 2024. Ce week-end-là, des amateurs pourront également emprunter soit le parcours complet du marathon, soit un parcours réduit de 10 km. Environ 37 000 dossards sont à gagner en s'inscrivant sur le site internet des Jeux de Paris.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Raphaël ?
Je suis en train de m'inscrire, justement, voilà.
Les marchés financiers avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir Hélène.
La fête est déjà finie, Paris repart à la baisse.
Oui, marché rattrapé par ses peurs après trois belles séances et même une séance euphorique hier avec un gain de plus de 4%. Le CAC 40 repère donc 0,9%, 5 985 points. Et la journée a été particulièrement compliquée pour l'automobile avec Michelin qui chute de 5%. Ou Faurecia en baisse de 7,7%. Retour à la réalité aussi sur les autres places en Europe. Londres perd 0,5, Francfort moins 1,2, Amsterdam moins 0,8, moins 0,9 à Paris pour le CAC 40, 5 985 points.
Merci Claire Lemaître.
C'était la Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène, à demain.
À demain.
Et avec Marlène Duret, Marlène, des brouillards et de la fraîcheur pour débuter la journée demain.
Oui Raphaël, surtout dans le nord-ouest, pour la fraîcheur, couvrez-vous si vous partez aux aurores. Un temps gris donc, parfois brumeux. Pour qui ? Pour la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Limousin, l'Auvergne, en continuant vers le Berry, la Bourgogne, une grande partie de la Lorraine et de l'Alsace. De la grisaille localisée également sur la côte méditerranéenne, en bord de Manche, sur la pointe sud de la Corse, on parle toujours du littoral. Et puis des petites ondées sont possibles sur le Roussillon.
Et l'après-midi, le soleil devient majoritaire.
Oui, va gagner du terrain. Alors, on va retrouver quand même la trace de la perturbation arrivée aujourd'hui par la Bretagne. Alors, a perdu de son activité, évidemment. Trace nuageuse qui va alterner avec des éclaircies de l'Aquitaine à la Franche-Comté et au sud de l'Alsace, en passant par le Limousin, le nord de l'Auvergne et le Lyonnais. Et puis, sur le reste du pays, effectivement, le soleil l'emportera, Raphaël.
Alors, par rapport à aujourd'hui, les températures vont baisser, mais on reste quand même au-dessus des moyennes de saison.
Hein. Et oui, elles vont afficher le plus souvent 17 à 20 degrés sur la moitié nord, avec 17 à Rouen, 19 à Paris, 20 à Nantes, Reims, Mulhouse ou Dijon. Sur la moitié sud, comptez 21 à 25. Alors 21 à Limoges par exemple, 23 à Toulouse, 24 à Grenoble ou encore 25 à Nîmes.
C'est bien noté. Merci Marlène Duret. Prochain point météo à 23h sur Europe 1. On espère que cet hiver ne sera pas trop froid. Ça pourrait nous coûter extrêmement cher. On va parler du plan de sobriété énergétique qui sera présenté demain par le gouvernement. Nos commentateurs ce soir, Jeannette Bougrab, Anne-Charlotte Bézina et Alexis Karl Klins Marchais. À tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.